Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, on vous raconte une belle histoire, celle de Sophie Gargowicz, maire de la commune de Blanquefort-sur-Briolance dans le Lot-et-Garonne. En mars 2014, son équipe est élue avec un élément clé dans son programme, celui de maintenir son école rurale au sein de sa commune. Conscient que les effectifs avaient plutôt tendance à baisser, faute de nouvelles familles et d'une ambiance économique morose, ses équipes devaient donc proposer un développement différent pour leur commune. Et ce projet fou a été celui de proposer de maintenir cette école en y intégrant la pédagogie active Montessori. Après de nombreux aléas et des obstacles en tout genre, Sophie a réussi son challenge et a embarqué avec elle les enseignants et les parents de la commune pour créer une école publique Montessori. Cette histoire fabuleuse a permis à la commune de voir sa population augmenter de 16%. Des histoires comme on les aime. Bonne écoute! Donc bonjour Sophie, nous sommes très contentes de pouvoir enregistrer un épisode avec vous aujourd'hui. On sait que vous avez, une histoire assez particulière qu'on a hâte que tu racontes à tous nos auditeurs. Donc est-ce que tu pourrais notamment revenir un petit peu sur ton histoire et notamment celle qui fait qu'aujourd'hui tu es enseignante et maire de ta commune?
Oui, donc bonjour à toutes les deux. Donc c'est vrai que je suis ravie de pouvoir vous expliquer un petit peu ce que l'on a fait sur la commune. Et en effet, donc je suis enseignante parce que j'ai repris en fait une activité professionnelle en février 2019 parce qu'à la base, je ne voulais pas me représenter pour ce mandat. Donc je voulais repartir dans la vraie vie. Mais le destin en a décidé autrement et là je suis donc réélue pour un deuxième mandat, mais ça fera troisième mandat à la commune de Blanquefort-sur-Briolance. Alors cette idée, moi, elle m'est venue la première fois, donc il y a 12 ans, on est arrivé à Blanquefort-sur-Briolance et je voulais vraiment m'investir dans le village et je ne savais pas trop comment. Et puis on est arrivé, c'était le moment des élections et le maire m'a demandé d'intégrer la liste. Donc j'ai dit pourquoi pas, hein, parce que je dis c'est souvent facile de critiquer, mais lorsqu'il faut agir, peu de monde ne se présente. Donc du coup je l'ai fait, nous avons tous été élus. Et puis donc j'ai passé 6 ans avec Pierre Mesqui et j'ai beaucoup aimé en fait ce mandat. Je m'étais investie déjà pour l'école Et donc en 2014, il ne souhaitait plus se représenter. Il m'a demandé de prendre la suite, ce que j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir parce que j'avais peur de cet engagement, surtout en tant que mère et femme et mère, voilà, parce que c'est quand même beaucoup de questions que l'on se pose avant de s'engager de cette façon-là. Et donc en 2014, nous avons été élus et là, on savait qu'on avait un problème avec l'école et donc ça a été le grand travail du mandat, c'était proposer une école en pédagogie active, mais toujours une école publique.
Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les problèmes que vous aviez au niveau de l'école ?
Alors moi, depuis que mes enfants sont à l'école, donc j'ai la grande qui a 19 ans et la petite qui a 14 ans, nous savions que les effectifs étaient en baisse constante, et c'est quelque chose qu'on pouvait remarquer. Et que faire ? À part sortir les banderoles et dire non, ne touchez pas à notre école. Et je sais que ça, c'est quand même quelque chose qui généralement ne porte pas ses fruits, parce que quand ils décident, nos enfants ne deviennent que des chiffres, donc ils ferment des classes. Donc c'était que faire et comment en fait transformer et amener des gens à venir inscrire leurs enfants dans notre école. Et moi, j'étais convaincue que la pédagogie active, puisque je la pratiquais moi-même en tant que maman avec mes enfants, et puis nos enseignantes le faisaient quand même aussi, hein, de façon homéopathique, mais elles avaient cette fibre-là, donc j'étais convaincue qu'on pouvait travailler sur cette piste-là, et elles ont accepté. Et donc nous sommes partis sur la pédagogie Montessori que moi je connaissais et on a mis ça en place. On y a travaillé en fait dès 2015 et en septembre 2016 on ouvrait donc l'école en pédagogie active Montessori, et ça grâce à vous aussi puisque vous aviez accepté de former nos enseignantes.
Ah, c'est gentil.
Et qu'est-ce qui expliquait qu'il y ait une baisse des inscriptions dans cette école ?
Comme dans toutes les écoles rurales, en fait, on est tous dans la même problématique, c'est-à-dire que les gens partent plus vers les zones urbaines pour des raisons purement économiques. Hein. C'est donc le travail se trouve plutôt dans les zones urbaines. Donc en fait, il y avait cette migration qui partait et on n'avait pas d'entrants en fait dans les villages. Et c'est toujours le cas autour. On s'en rend compte. Hein. Et le pari fou, c'était de se dire bon, mais l'école, moi j'étais convaincue que l'école c'est l'instruction, donc c'est le poumon d'un village, et c'était comment attirer de nouvelles familles à l'école. Et la pédagogie Montessori en fait a explosé la démographie, et par contre ça j'en avais pas mesuré l'impact.
Et ça concernait combien d'enfants initialement dans cette école ?
Alors au début, nous étions, quand on était en danger, on était à 54 enfants.
Okay.
Donc on avait trois classes, 54 enfants. Donc nous savions qu'en 2018, compte tenu de cette baisse qui était facilement calculable, nous allions perdre une classe. Et si on commence par perdre une classe, on sait que tout le reste suit, c'est la fermeture d'une école. Hein. Et puis voilà, la bonne étoile. Et 2018, plutôt que de fermer une classe, eh bien nous avons ouvert une quatrième classe.
Super.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait ? Parce que ça a été quand même une drôle d'aventure. Ça n'a pas été simple.
Ça a été une grande aventure. Très difficile. Avec le recul, en fait, je me dis, mais je suis complètement cinglée parce que j'ai pris des coups, hein, quand même. Hein.
Ah oui.
Mais la chance que j'ai eue, en fait, c'était que j'avais une équipe qui était derrière moi, j'avais les enseignants derrière moi et j'avais les parents derrière moi. En fait, parce qu'on a été unis, on a réussi, et parce qu'on ne savait pas que c'était impossible, on a réussi aussi, quoi. Et comment ça s'est passé ? J'ai envoyé un premier courrier, en fait, à Benoît Hamon, qui était ministre de l'Éducation à l'époque. Puis en fait, ça a été vraiment une bouteille à la mer. Il n'a pas du tout compris ou adhéré. Enfin, ça ne l'a pas intéressé. Et quand on a changé de ministre, ça a été Najat Vallaud-Belkacem, qui a été donc promue à ce poste-là. Et là, j'ai eu par contre une écoute. Et le fait que je sois aussi conseillère départementale, forcément, on a un peu plus de visibilité, ce qui reste injuste, et je le reconnais, hein, c'est assez injuste ça. Mais ça m'a aidée. Et donc, j'ai obtenu ce premier rendez-vous. Et donc, il ne m'a jamais dit non. Et quand on ne me dit pas non, ben moi je continue. Donc j'ai eu des représailles un petit peu du recteur qui m'a dit que je n'avais aucune patience, que j'aurais dû passer par les échelons, c'est-à-dire l'IEN, l'inspecteur académie, le recteur. Mais moi je leur ai expliqué que Je sortais du privé. Dans le privé, quand on a une question, on va voir le patron. Et le patron, c'était la ministre. Donc voilà, plusieurs allers-retours à Paris. Beaucoup de craintes. Je ne vous cache pas que j'ai eu très, très peur souvent pour mes enseignantes, hein, parce que j'avais peur qu'elles prennent les foudres de cette grosse machinerie que n'est l'éducation nationale. Mais je leur ai toujours promis en fait que je serais constamment leur bouclier et que c'est moi qui prendrais les coups et pas elles. Et que elles, ça leur redonnait un souffle dans leur passion, hein, parce qu'elles exercent leur métier avec passion. Et que pour ça, je les protégerai toujours. Et quitte à alerter tous les médias et à faire tout ce qu'il fallait faire, de toute façon, je me battrai jusqu'au bout et je l'ai fait jusqu'au bout. Et puis finalement, j'ai pris des coups, mais ça a été plutôt raisonnable quand on voit ce qu'on a réussi à faire.
Et parce que toi, ta croyance était vraiment qu'avec une école Montessori, vous pourriez sauver votre école dans votre commune.
Voilà. Au-delà de ça, en fait, je me suis aperçue que pour moi, pour mes enfants, c'était hyper bénéfique. Et moi, en tant qu'enseignante, je trouve ça tellement triste de gaver les gamins d'informations. Et je me disais que ça serait quand même beaucoup plus intéressant s'ils pouvaient acquérir toucher cette instruction par l'acquisition en faisant par eux-mêmes. Et on le voit par de tout petits détails. Moi, je me dis, je vois souvent des parents quand un gamin, ben mon neveu d'ailleurs, ce week-end, 3 ans, enfin pas encore 3 ans, il essaye de mettre son t-shirt tout seul et sa maman est arrivée, et elle lui a mis le t-shirt. Je lui dis, laisse-le faire. Tant pis s'il est à l'envers, c'est pas grave. Et en fait, je me rends compte de ça, c'est qu'on est dans une société qui va tellement vite et qu'il faut que même nos enfants aillent vite. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'en fait, ce sont des oies qu'on gave, quoi. Voilà. Et je me dis que cette pédagogie-là leur donne la chance de vraiment appréhender les choses par eux-mêmes et pour eux-mêmes.
Mais Maria Montessori disait que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'était le temps.
Ah mais c'est ça, c'est le temps, c'est exactement ça. Moi, j'ai mes enfants, des fois, elles partaient à l'école avec une chaussure d'une couleur, l'autre chaussure de l'autre, le pantalon à l'envers. Mais peu importe, elles l'avaient fait elles-mêmes, quoi. Donc voilà, c'est pas grave. Et en fait, je sais pas, on est vraiment dans une drôle de société. Et cet après-Covid, j'y crois pas, moi. Hein. Je crois que c'est encore pire maintenant. Mais nous, nos enfants, au-delà de ce battage médiatique qu'il y a eu, au-delà de tout ce que l'on a pu en dire, moi, je reste convaincue au fond de moi que ce qui me dit qu'on a réussi, c'est quand les gamins arrivent avec la banane, le sourire aux lèvres et qu'ils sont contents d'aller à l'école, quoi. Oui. Et ça, je crois que c'est une des plus belles réussites.
Tu m'avais dit aussi que tu avais bénéficié beaucoup du soutien de votre inspecteur d'académie.
Bah, il a été notre petit trésor, hein, parce que je crois qu'il a compris, qui j'étais, que je ne le faisais pas en fait pour moi, parce que au début il a eu très peur de ça. Il pensait en fait que je l'avais fait vraiment à des fins politiciennes. Et quand on en a longuement parlé, qu'il a compris en fait qu'on était dans la même optique et qu'on faisait vraiment pour le bien de l'enfant, mais aussi des enseignantes, parce qu'elles se remettaient quand même beaucoup en question. Et j'avais très peur de perdre Isa, parce qu'elle a des valeurs humaines exceptionnelles et qu'elle me disait souvent qu'elle voulait partir sur une reconversion. Et je me suis dit non, parce qu'on peut pas perdre Isa, quoi, c'est pas possible. Et quand il a bien compris ça, en fait, il a dit « moi, je vous suis ». Et il nous a quand même bien protégés aussi, hein. Même si ça n'a pas été facile au début. Il nous a suivis, il nous a mis un programme CARDIS qui nous a quand même protégés aussi. Mais dans 3 ans, il part à la retraite, quoi. Donc j'ai un petit peu peur. Il est reparti là avec moi et il m'a dit « je tiens 3 ans encore ». Et voilà, j'espère qu'on pourra aller au-delà. Et puis de toute façon, moi je suis là pour 6 ans, hein. Donc je vais tous les emmerder jusqu'à ce qu'on maintienne tout ça. Hein.
Bah oui, c'est ça. Là, c'était quand même bien parti, là.
C'est ça.
Tu as parlé d'un programme, et en quoi ça consiste ?
Alors le programme CARDI, c'est une expérimentation au sein de l'éducation nationale. Et en fait, c'est comme si on était un peu sous surveillance, mais j'aime pas ce mot, c'est de la surveillance bienveillante. C'est-à-dire que vraiment, c'est une expérimentation au sein de l'éducation nationale. Et ils regardent un petit peu l'évolution des enfants et il y a ce suivi-là. qui fait qu'on a des outils aussi supplémentaires et on est moins emmerdé quoi quelque part. Hein, ils vont pas. Je crois que c'était aussi.
C'est à Tursac.
Céline Alvarez qui en avait bénéficié.
Ah oui, c'est ça. Puis aussi, il y avait une école qui avait ouvert comme ça à Tursac en Dordogne. Mais le problème, c'est qu'ils savaient pas combien de temps ça allait durer, quoi, combien d'années.
Voilà, généralement, on part sur 3 ans. Mm. Mais nous, on a fait 5 ans et on est reparti sur 3 ans de plus parce que, en fait, j'ai mis l'argument. Moi, ce que je voudrais voir, c'est que les premiers qui sont arrivés en 2016, là, en petite section, je voudrais qu'on arrive à les suivre jusqu'à leur arrivée en collège.
Mm. Ouais, c'est super.
Et parce voilà. que pour continuer à garder ce programme, t'as des obligations de résultats à apporter à l'Éducation nationale ?
Non.
Ok.
Non, il n'y a pas d'obligation de résultats. Ils le disent, ils ne l'écrivent pas, bien entendu. Je sais qu'on est scruté, hein, mais ils ne l'écrivent pas.
Mm. Ok.
Mais après, les résultats sont incroyables. Quand les enseignantes ont été bizarrement inspectées plusieurs fois aussi. Et en fait, on se rend compte que ils sont tous quand même assez surpris du résultat.
Oui. Et tu as parlé de nombreux obstacles à mettre en place cette école et de nombreux coûts que tu as pris. Est-ce que tu pourrais juste nous détailler un petit peu plus ces étapes pour que notamment les personnes qui se sentent inspirées de ton histoire puissent se préparer à ce qui peut leur arriver ?
Alors, je suis quand même quelqu'un de plutôt optimiste, donc j'ai tendance à un petit peu oublier les mauvaises choses pour n'en garder que le positif. Mais j'ai quand même versé pas mal de larmes, hein, parce que les moqueries, et ça, c'était plutôt local, parce qu'ils comprenaient pas, en fait, ce que j'étais en train de faire. Et j'ai pris beaucoup de coups dans ce sens, publiquement, beaucoup de moqueries. C'était « elle fait une école américaine ». Enfin, ils pipaient rien du tout, quoi. Et c'était constamment ça. Et en plus, on avait mis la monnaie locale au sein de la collectivité aussi, qui s'appelle l'abeille. Alors, c'était la reine des abeilles. Voilà, elle fait son école américaine. Enfin, ils ne comprenaient rien. Et donc, c'était constamment. Et j'avais l'impression d'être tout le temps en train de me justifier et de dire, mais non, mais vous allez voir, je reste convaincue que pour nos enfants, c'est vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Mais bon, quand t'as la moyenne d'âge des élus autour est de 70 ans et qu'ils ils sont plus vraiment en contact avec les enfants, bah, leur meilleur moyen de me déstabiliser, c'était de m'attaquer constamment, quoi. Après, c'était le recteur comprenait pas, et quand il m'a envoyé le courrier pour m'envoyer toute la procédure pour ouvrir une école privée, j'ai bien compris que c'était « venez pas nous emmerder avec une école publique en pédagogie active Montessori », quoi. Donc voilà, on avait tout ça, et puis j'ai quand même été beaucoup attaquée par les écoles privées Montessori.
D'accord.
Ah oui, s'il y avait des...
Et
il y
ça,
a même
ça,
eu,
moi, ça,
bon, on m'a
par
même
contre,
écrit.
Ça m'a blessée parce que je me suis dit, Maria Montessori n'avait pas déposé de brevet, à ce que je sache, et qu'elle le faisait pour le bien-être des enfants. Et je me suis dit, mais vous, école privée, normalement, vous travaillez dans ce sens-là, donc pourquoi est-ce que vous m'attaquez, quoi ? Et ça, j'ai pas compris. Ça m'a blessée, mais vraiment sur un plan moral éthique, hein, plus que...
Oui, d'accord.
Voilà. Mais après le reste, ce ne sont que des souvenirs que j'ai effacés.
Moi, on m'a aussi écrit en me disant comment tu peux soutenir une école publique Montessori, etc. Mais ça, c'est les puristes, on s'en fiche un peu, quoi.
Oui, c'est ça, mais j'ai pas compris l'attitude, quoi. Je n'ai pas compris.
Moi, quand j'ai visité... votre école, c'est extraordinaire, quoi, ce qui se passe. Et c'est vrai que les enfants, ils sont super heureux, ils sont très autonomes, c'est extraordinaire, quoi.
C'est ça. Mais après, voilà, leur attitude m'a blessée, voilà. Parce que je me suis dit, alors du coup, est-ce que ce n'est que lucratif et on n'est pas dans cette même optique, justement, de faire nos adultes de demain ? J'ai pas compris.
Et tu as eu recours à un financement participatif pour acheter le matériel, tu peux nous raconter ?
Oui, alors pareil, parce qu'on avait fait donc un budget prévisionnel, on savait qu'il nous fallait 13 000 euros. Et nous, on n'a pas de gros budget, hein, dans nos petites communes. Donc du coup, on en a parlé avec les enseignantes et j'ai dit, bon, on n'a qu'à lancer un financement participatif. Et puis, on l'a lancé. On a une association Paris qui nous a versé la moitié de la somme. Et le reste, on l'a obtenu par le financement participatif. Donc, on a vraiment couvert tous les frais. par cette solidarité-là. Et les parents se sont investis tout un été avec les enseignantes. Et on a fabriqué beaucoup, beaucoup de matériel.
Mmh. Super. Et d'ailleurs, quelles étaient les réactions des habitants de ton village face à ce projet un peu fou? Est-ce que c'était globalement du soutien ou est-ce qu'il y avait de la méfiance?
Et non, beaucoup de soutien, parce qu'au début, je me suis dit, oh là 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 là, je vais encore prendre les foudres des parents, ils vont vouloir retirer leurs enfants ou des choses comme ça. Et je leur ai dit, voilà, je vous explique ce que l'on va faire. C'est une façon de sauver notre école, mais aussi d'aider nos enfants. Donc, je pense qu'on a tenu un langage très franc, me semble-t-il. Après, c'est ma vision à moi des choses, hein. Mais on n'a rien caché, on a vraiment tout dit. Et puis je leur ai dit, voilà, la porte de mon bureau est ouverte. Vous avez la moindre question, vous venez et on en parle. J'ai reçu peut-être 2 parents, mais c'est tout. Et tous les autres se sont investis. Et je les en ai remerciés parce que j'ai eu d'autres maires dans d'autres communes où il y avait des levées de boucliers, quoi. Donc, et non, et pas chez nous à Blanquefort, quoi.
Et il y avait combien d'élèves inscrits à la rentrée de septembre quand tu as ouvert avec cette pédagogie active?
Alors tout de suite ça a commencé à augmenter dès qu'on a fait on a eu les premiers médias qui s'en sont intéressés. Un article dans Le Monde, elle m'a appelé la journaliste, je sais même pas comment elle a eu mes coordonnées. J'étais en vacances en plus, hein. Et à partir de là, ça a été un engouement. Moi, j'ai jamais cherché les médias, c'est eux qui sont venus. Et tout de suite, ça a fait un buzz. Et en septembre, on avait déjà pris 8 enfants, donc on repassait à 62. Et ça a continué à monter avec énormément de demandes. Par contre, on a pris un engagement moral avec Éric Congé, le maire de Gavaudin, puisqu'on est en RPI. C'était de ne prendre les enfants dont les parents vivent, pour lesquels les parents vivaient sur les communes de Blanquefort ou de Gavaudin, parce que le but c'était pas de vider les RPI voisins, quoi. Mmh. C'était d'attirer de nouvelles familles. Et c'est ce qui s'est passé parce que nous, on a pratiquement plus rien à vendre sur la commune, pratiquement rien à louer, et on est très embêtés de ce côté-là.
C'est un grand succès, du coup.
Tu peux expliquer ce que c'est que les RPI? Parce que je crois qu'il y a les gens, ils ne savent pas trop.
Oui, c'est un regroupement périscolaire intercommunal. C'était en 92 qu'on l'a fait, nous, parce que sinon, on perdait notre école. Donc, on se regroupe entre communes et chacun... on travaille ensemble pour l'école. C'est-à-dire qu'il y a des classes qui sont sur la commune de Blanquefort, il y a des classes qui sont sur la commune de Gavaudin. Et en fait, on est une école, quoi.
Et donc... Il y a beaucoup de gens qui se sont installés sur vos communes pour aller à l'école.
Oui, 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 on a énormément de gens qui sont venus. On a eu, d'ailleurs, ça nous a permis d'accueillir un ostéopathe, une gynécologue. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, mais tu vas attirer que des youpilélés ». Alors ça, c'est un truc que je déteste, mais c'est vraiment le terme qu'on a employé. Et puis finalement, ils se rendent compte que... Ben que non, quoi, que tout le monde peut être intéressé par ça. Et puis je crois qu'il y a aussi une prise de conscience que vivre à la campagne et dans un cadre idyllique tel que le nôtre, c'est quand même un luxe, quoi.
Et moi je me souviens qu'il y avait des nouveaux commerces qui ont ouvert aussi, une boulangerie, des choses comme ça.
La boulangerie, mmh. Voilà, ça a été le deuxième gros projet du mandat. La boulangerie avec un four à bois, parce que bon, on est en résilience énergétique, donc voilà. Et voilà, la boulangerie, donc ils ont une enfant qui vont scolariser à l'école. Voilà, c'est plein de choses comme ça, des gens qui se sont installés en télétravail, beaucoup aussi. Donc ouais, ça continue, il y a vraiment cet engouement incroyable, quoi.
Ah oui, c'est ça que je voulais te demander, ça continue en fait, là, ça continue.
Ça continue, parce qu'encore la semaine dernière, j'avais 3 demandes d'inscription, mais pour des gens qui vivent pas sur notre commune, et donc du coup, c'est un crève-cœur hein, de refuser. Mmh. Mais je leur explique, je leur dis voilà, moi j'ai un engagement moral, donc je peux pas y déroger, quoi. Donc bon, après ça passe, ils comprennent, hein, quand on est assez franc et clair, ils comprennent. Mais je me dis allez, il faut qu'on continue, quoi.
Et du coup, t'as ouvert une autre classe, hein, c'est ça, t'as ouvert une
c'est
deuxième.
C'est ça, on a eu l'ouverture en 2018 d'une 4e classe. Et donc, ils nous avaient mis des stagiaires.
Je m'en souviens.
Voilà, 2 stagiaires. Et là, le poste a été... donc, maintenant, la classe a été pérennisée à cette rentrée-là. Mmh. Et donc, c'est une enseignante titulaire qui est sur la commune et qui était venue, qui avait quitté la Haute-Savoie, qui était en disponibilité de l'Éducation nationale.
qui est venue s'installer avec sa petite famille ici pour justement scolariser ses enfants. Et finalement, c'est elle qui a eu le poste.
Ah, c'est super, c'est super.
Ouais, c'est Audrey qui a rejoint l'équipe et qui est dans cette même dynamique. Donc, c'est parfait pour nous, quoi.
Et maintenant, comment sont tes rapports avec l'éducation nationale ?
Alors, avec notre IEN, très, très bien. Et puis avec les autres, j'ai pas de avec le recteur ou avec l'inspecteur académie de l'académie, on n'a pas vraiment de rapport. D'accord. Et puis moi j'ai quand même un sale caractère, donc du coup j'ai un peu cette mauvaise réputation finalement et on se parle très peu parce qu'on s'entend pas très bien.
D'accord.
Mais de toute façon tes enseignantes, elles sont inspectées régulièrement et elles doivent avoir des très bonnes inspections.
Ah, elles ont de très bonnes inspections. Donc ça je suis ravie.
Et tu n'as plus besoin d'être en contact avec le ministère ?
Non, j'ai gardé. Alors là, depuis qu'on est passé avec, comment il s'appelle, Blanquer, non, j'ai pas écrit. J'avais tenu Najat Vallaud-Belkacem informée en fait du suivi tous les trimestres à peu près. Je lui envoyais un courrier où elle me répondait. En plus, ça c'était vraiment sympa. Et elle m'a envoyé un petit mot là il y a pas longtemps alors qu'elle est plus au ministère, hein, donc je trouve ça plutôt bien quoi. Je crois qu'en tant que maman, elle avait compris ce qu'on était en train de faire.
Oui. Est-ce que tu as depuis été contactée par d'autres mairies qui souhaitent suivre une démarche
énormément.
Similaire?
Ouais, énormément. Alors on en parle souvent longuement, hein. Je prends beaucoup de temps parce que je pense que c'est quand même quelque chose de tellement important. Et souvent ils ont un problème, ou c'est les enseignants qui veulent pas suivre, ou ce sont les parents, ou ce sont les mairies. Enfin c'est toujours parce que j'ai aussi des associations de parents d'élèves, hein, qui me contactent. Donc on essaie de trouver une solution, mais après voilà, moi je leur fournis tout ce que j'ai, je leur envoie tout ce que j'ai, mes délibérations, mes courriers, enfin tout ce que j'ai je leur donne, parce que ça leur permet de pas passer par tout ce travail que j'ai pu faire en amont, donc ça dégage un petit peu l'horizon. Et après j'ai pas tellement de retours quand je leur ai tout donné, c'est dommage parce qu'après j'ai pas d'autres retours, je sais pas si ça fonctionnait ou pas. D'accord. Et moi sincèrement j'ai pas forcément le temps de rappeler tout le monde quoi.
Oui, c'est sûr.
Mais c'est ça que j'allais te demander, si tu savais si d'autres communes avaient réussi à le faire, mais en fait non.
Non, pas toujours. Et il y en a une commune qui était dans le sud-est, je crois qu'ils ont réussi et ils sont restés en contact avec les écoles, donc ça c'est bien. Donc je sais qu'ils avaient fait un échange déjà aussi, ils étaient allés se voir, les gamins étaient venus ici, les nôtres étaient partis là-bas, donc ça c'était bien. Et après les autres, je sais pas encore, il y a un autre maire là du côté de Bourges à qui j'essaie d'obtenir un rendez-vous et pour au ministère, donc peut-être que je vais aboutir là avec Blanquer, mais c'est pas simple.
Est-ce que tu aurais une anecdote marquante à nous raconter dans toute cette démarche?
Il y en a beaucoup et en même temps je suis nulle pour raconter des histoires. Là ça me vient pas tout de suite comme ça.
Pas de problème.
Non, ça me vient pas. Ça me vient pas. Après, non. Enfin, beaucoup d'émotions, ça c'est certain, hein, parce que. Enfin, moi, je suis un sac à émotions, comme diraient mes filles, mais ouais, beaucoup d'émotions. Après, la chance d'avoir ces quatre enseignantes-là aussi qui ont accepté ce fou projet, quoi.
Oui. Et comment t'as réussi, justement, à les convaincre de te suivre dans cette démarche?
Peut-être parce qu'elles sont aussi folles que moi, en fait.
Moi, j'ai visité
aussi folle, passionnée.
J'ai visité leur classe et elles font des choses extraordinaires parce qu'elles vont au-delà de Montessori. Moi, j'ai vu, il y en a qui font de la programmation. Elles font plein de choses en fait. C'est vrai
ça,
qu'elles sont complètement enthousiastes, passionnées. C'est extraordinaire quoi.
Et je crois qu'elles sont vraiment dans leur rôle de pédagogue, c'est-à-dire que c'est vraiment elles qui s'adaptent à l'enfant et non plus l'enfant qui doit s'adapter à l'enseignant. Parce que c'est une telle souffrance, hein, de s'adapter à son enseignant que, enfin, moi, je sais que j'en garde des souvenirs détestables de quand j'étais petite et je me dis non, plus jamais ça pour un enfant, quoi, c'est pas possible.
Et toi, tu es enseignante aussi, tu enseignes quoi?
Et moi, j'enseigne l'anglais.
Ah, en collège? En lycée?
Je suis en lycée pro.
Ah, d'accord.
Voilà. Et j'adore ce que je fais, hein, vraiment.
Et tu, ton enseignement est aussi inspiré des valeurs Montessori, je suppose ?
Complètement. Complètement. Mais c'est difficile quand on arrive avec des gamins qui ont entre 16 et 18 ouais. ans, qui ont suivi une scolarité où on leur a, en plus en lycée pro, quand ils atterrissent en lycée pro, c'est souvent on leur a rabâché toute leur vie qu'ils étaient nuls. Et quand on les revalorise, je sais pas, ça change quelque chose. Enfin, moi, je les trouve tellement touchants. Ils me touchent tellement, ces gamins. Mmh. Et on arrive à faire des choses incroyables hein, quand on leur dit, mais en plus, j'enseigne l'anglais en lycée pro, donc ça les intéresse pas forcément énormément. Hein. Mais quand on leur dit, mais si, vous connaissez plein de trucs en anglais, et en fait, ils se disent, mais oui, on connaît plein de trucs. En fait, c'est ça, c'est vraiment les amener sur une voie différente.
Oui. Et quels sont maintenant les projets que tu as envie de porter pour ta commune d'un point de vue éducatif?
Alors moi, je veux vraiment qu'on pérennise notre école et qu'on on continue dans cette mouvance-là, toujours en écoutant ce que veulent les enseignantes, parce que ce sont elles qui décident pour l'école. Donc dès qu'elles ont besoin de matériel ou choses comme ça, ben nous, on essaie d'y répondre en tant que collectivité. Voilà, je fais des économies partout, sauf à l'école. Donc ça, on continuera là-dessus. Et puis, de toute façon, je dis souvent, l'école, c'est ce qui a été mis en avant, mais ça fait vraiment partie, c'est vraiment la pièce d'un puzzle, d'un projet global.
Tu pourrais nous en dire plus sur ce projet global ?
Alors, le projet global qu'on avait mis en place en 2014, c'était vraiment travailler sur les trois socles du développement durable. Hein. C'était l'humain, la partie donc sociale, la partie économique et la partie environnementale. Et donc, il me semble, moi, que tout ce qu'on a fait, c'est vraiment des pièces qu'on a pratiquement toutes bien rangées. Et là, ce qu'on fait maintenant dans ce prochain mandat, c'est qu'on continue à pérenniser toutes ces actions-là. Et par contre, en impliquant davantage le citoyen. Alors, je l'ai fait, hein. Mais moi, je leur dis souvent, parce que j'ai un sale caractère quand même. Hein. Et je leur dis, vous êtes toujours en train de gueuler, vous me voulez me foutre du ric partout. Mais quand je fais des réunions participatives, vous êtes trois pelés à venir et après vous êtes incapable de me suivre un dossier pendant 8 mois parce que vous avez rendez-vous chez le coiffeur ou chez le dentiste ou machin. Je dis nous, en tant qu'élus, vous nous tapez dessus, mais on est là tout le temps. Donc en fait, s'investir, c'est pas critiquer, c'est proposer. Donc là, on part sur toutes les commissions avec un élu référent et un élu citoyen. Et sur la partie école. Le citoyen référent va travailler en fait sur le lien intergénérationnel parce que je trouve que c'est ce qui me manque.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, ça c'est la partie qui me manque. Bon, je crois qu'en fait je me guéris moi-même. Hein. C'est moi, j'ai pas eu de grands-parents parce que mes parents ont fui la dictature de Salazar, donc j'ai pas connu mes grands-parents. Et quand j'ai épousé Greg, sa grand-mère est devenue ma grand-mère et elle est décédée. Et je me dis ça c'est indispensable dans la vie d'un enfant en fait d'avoir des grands-parents. Et je vois que mes parents sont des grands-parents extraordinaires avec mes filles. Et je me dis il y a des enfants qui n'ont pas cette chance. Et ce lien intergénérationnel, je trouve que c'est ce qui me manque à l'école.
Et puis dans les deux sens, parce que pour les gens un peu plus âgés, c'est aussi formidable d'avoir des relations avec les enfants.
Oui, 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 oui. Et ça, je l'ai réalisé aussi parce qu'on a une petite mamie qui s'appelle Lulu, là, qui habite à côté de l'école. Et quand c'est la sortie des classes, chaque année, elle pleure. Parce qu'elle n'entend plus les enfants crier dans la cour et jouer. Et pendant 2 mois, pour elle, c'est très, très long. Donc je me dis ça c'est important. Ouais, voilà, on va le travailler. Je pense que ça va passer par les repas aussi. Mais on a des, j'ai essayé de le faire un petit peu. Mais on a des personnes âgées qui ont honte parce que quand elles boivent elles s'en mettent partout. Mmh. Parce que voilà. Et je me dis ben ça c'est encore la société qui veut qu'on soit parfait. Et ça on peut le changer. Donc on va travailler là-dessus.
Nous ce qu'on avait fait, on avait une dame un petit peu qui était à la retraite et qui vient faire lire les enfants tous les jours. Et en fait, c'est extraordinaire parce qu'apprendre à lire à des enfants, c'est une mission fabuleuse. Et de ce fait, elle pouvait les prendre individuellement, ce qu'une enseignante ne peut pas. Et ça a apporté à tout le monde. Les enfants, quand ils la voient arriver, ils sont tout contents, ils savent que c'est leur moment privilégié. Et puis elle, ça rythme sa semaine aussi.
C'est ça, parce que là on a une dame qui s'est proposée justement en citoyenne référente Et comme on fait garderie de 16h30 à 18h et que beaucoup de parents les laissent leurs enfants jusqu'à 18h, parce que forcément, on travaille toujours un petit peu loin, on va mettre ça en place.
Ouais.
Voilà, qu'il y ait ce lien-là, et puis faire... moi, j'aimais, je faisais beaucoup de bâtons de parole, et voilà, quand j'avais un peu plus de temps, j'intervenais beaucoup pendant l'étape, et on faisait beaucoup de sophro, de bâtons de parole, et les gamins sont incroyables, incroyables.
Et on m'avait dit ce que tu as dit aussi, c'est que le fait que, pour les personnes âgées, la fermeture d'une école, c'est dramatique, parce que c'est les cris des enfants, c'est ce qui rythme leur journée, en fait. Et du coup, il n'y a plus de rythme, en fait. Il n'y a plus rien, quoi. C'est le silence, quoi.
Complètement. Mmh. Et ça les rend tristes, hein, quand... Nous, en tant qu'élus, on se dit, ouf, allez, on a 2 mois de répit, ouais. On n'a plus rien à gérer pour l'école. mais égoïstement, hein. Et puis après, je me dis, mais non, c'est trop triste quand il n'y a plus d'enfants à l'école. Mmh.
Est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner aux mères qui voient leur classe se fermer ?
De ne pas attendre en fait, c'est parce que on sait, nous, en tant qu'élus, hein, on voit les chiffres, hein, malheureusement on est comme eux, hein, on calcule et on voit. Quand on sort les banderoles, c'est trop tard, hein, ça n'a plus aucun intérêt parce qu'ils en ont absolument rien à foutre. Et quand un enfant, ça devient un chiffre, c'est dramatique parce qu'il ferme. Moi je leur dis allez-y, lancez-vous. Vivez les choses, ressentez-les, parce que en fait, c'est en fonction aussi de l'endroit où on est, des gens que l'on a autour de soi, parce que peut-être que cette pédagogie-là, elle sera pas possible dans toutes les écoles, mais il y a l'école de la forêt, il y a tellement de choses qu'ils peuvent faire, quoi. C'est ressentez les choses, vivez-les et pas à l'impossible, nul n'est tenu. Hein. C'est qu'on ne sait pas que c'est impossible, alors on fonce et on le fait.
Super. J'aimerais te poser une dernière question avant de clore cet entretien. Est-ce que tu pourrais nous dire si, toi, il y a des choses que tu rêverais de voir changer dans les liens qu'il y a entre les écoles publiques et la mairie ?
Alors, que ce soit... moi, ce qui me perturbe souvent, c'est que quand moi, je parle avec mes collègues, maires, l'école, c'est un budget. Ils en parlent comme un budget. Et moi, c'est ce qui me gêne. C'est ce qui me gêne. Je crois que en tant qu'élu, on a un devoir moral aussi, c'est de se dire on est en représentation, on est en CDD, on a des choses à proposer et on doit faire avancer aussi certaines problématiques. Mais l'école, c'est un bien précieux. Ce sont nos adultes de demain, ce seront peut-être des élus qui nous remplaceront. Et il faut vraiment qu'on arrête d'en parler comme des chiffres, comme du fric, et qu'on en parle comme des petits êtres vivants éclairés et qu'on n'est plus quand on est adulte.
Super. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. Bravo pour cette fabuleuse histoire. C'est vraiment impressionnant et très inspirant.
Et merci beaucoup à toutes les deux parce que vous faites partie de ce socle et ça, pour ça, j'oublierai jamais.
Ah, t'es super. Merci, hein, Sophie.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.